Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! Un voyage préparé en secret, un président américain qui tend la main et un contact initié par le sport. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, la visite de Nixon en Chine et la diplomatie du ping-pong.
Avant de quitter Washington, jeudi dernier, le président Nixon l'a dit encore une fois au peuple américain, à la nation américaine, déjà 23 ans que les relations entre la Chine et les États-Unis sont à peu près inexistantes. Nous avons eu des divergences, nous aurons encore des divergences, mais pourquoi vivre comme des ennemis? Pourquoi vivre en état de guerre? Ça n'est pas important. Le succès de cette visite, ce qui importe le plus finalement, c'est s'il est possible d'améliorer le sort de nos peuples.
Bernard de Rome, dans le cadre d'une émission spéciale, 20 février 1972, quand la Chine reçoit l'oncle Sam. Une visite historique préparée avec minutie. C'est la première fois qu'un président américain se rend en Chine. Et les deux pays n'ont plus de relations diplomatiques depuis la prise du pouvoir par Mao, 21 ans plus tôt, en 1949. Nixon, président pragmatique, n'a rien d'un communiste. Mais c'est lui qui fait les premiers pas. Le rapprochement passe par les visites secrètes de son fidèle conseiller, Henry Kissinger, et l'équipe américaine de ping-pong un an plus tôt.
Nous avons reçu des images du dernier entretien entre M. Nixon et M. Chouinard, qui vont sans doute ressembler à celles que nous avons vues à 12h46, mais soyons présents sur l'événement.
Pas tout à fait, parce qu'il y a cette fois-ci un changement. C'est M. Chouinard qui s'est dérangé pour aller voir M. Nixon à sa résidence qui se trouve dans, quelque part dans la cité interdite, où il occupe plusieurs pièces, naturellement, d'une très jolie maison aux tuiles jaunes. Je pense que nous allons voir dans l'album. Bien, voici.
Ah, voilà, un peu de neige à Pékin.
Oui, et voici le président Nixon qui est sur le pas de la porte de sa résidence pour attendre M. Chouinard qui, cette fois-ci, comme je vous le disais, s'est déplacé pour venir lui rendre visite. Cet entretien, comme celui d'hier, aura duré encore une fois 4 heures. Et en accueillant M. Chouinard, M. Nixon, qui fait décidément des progrès en chinois, lui a dit « Ni hao ». Ni hao, ça veut dire textuellement « comment allez-vous », mais c'est un petit peu plus familier que le « comment allez-vous ». C'est presque « salut » ou « hello » en américain.
23 février 1972, émission spéciale dans les archives de l'INA. C'était bien avant CNN et les réseaux d'information en direct. Mais compte tenu de l'importance de la visite, la programmation télé était chamboulée à l'époque. Alors pour parler de cette visite, mais aussi de ce qu'on appelle la diplomatie du ping-pong, l'accueil chaleureux qu'ont reçu les joueurs américains en Chine un an plus tôt et qui a mené ultimement à ce voyage historique de Nixon, mon invité, Yves Thiberghien, il est professeur titulaire au département de sciences politiques de l'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver, UBC, directeur émérite de l'Institut de recherche sur l'Asie. On le joint sur place à Vancouver. Bonjour.
Bonjour, Maxime.
On peine à imaginer aujourd'hui à quel point ce fut un événement important, hein, probablement le voyage le plus important de la diplomatie américaine. Comment étaient les relations entre la Chine rouge et les États-Unis au début des années 70?
Alors, les relations étaient exécrables. C'était même des relations d'hostilité depuis 1949, depuis que Chiang Kai-shek et les nationalistes avaient été vaincus par Mao Zedong et les communistes. Chiang Kai-shek s'était réfugié sur l'île de Taïwan. Et puis surtout, en 1950, avec la guerre de Corée et l'invasion de la Corée du Sud pro-américaine par la Corée du Nord rouge, les États-Unis s'étaient retrouvés en guerre avec la Chine. Et de fin 1950 à 1953, il y a une guerre terrible avec beaucoup de morts, des millions de morts chinois, des dizaines de milliers de morts américains. Et ensuite, il y a eu trois crises de Taïwan. Des îlots qui appartiennent à Taïwan, mais qui sont à côté de la Chine, tout près de la Chine, ont été bombardés en 1954, en 1958 et en 1962 par les Chinois. Et il y avait des bombardements de riposte. Et puis en 1964, les Chinois ont explosé leur première bombe nucléaire. Pendant toute cette période, c'est la guerre froide, c'est des relations très, très dures, beaucoup d'hostilité, même s'il y a des relations par derrière secrètes ou des petits efforts de ci, de là. Et puis, une fois que Nixon est élu et qu'il vient au pouvoir, dès 1969-70, il commence à avoir l'idée qu'il faut changer la donne. D'une part, parce qu'il observe que la Chine et l'Union soviétique ont des mauvaises relations et ont eu une guerre de frontières en 69, et d'autre part, parce qu'il veut s'extirper de la guerre du Vietnam. Et il sait qu'il a besoin de la Chine.
Donc, c'est très pragmatique, là, son idée de se rapprocher comme ça, de rétablir des ponts avec la Chine.
Totalement, c'est un leader réaliste, machiavélien, et il était connu dans les années 50 comme finalement quelqu'un qui combattait pour la guerre froide. C'était un leader très conservateur et très faucon. Anti-Union soviétique, anti-Chine.
Oui, anticommuniste, effectivement.
Anticommuniste, voilà.
Il va s'initier une diplomatie, hein, tranquillement, diplomatie des petits pas, qui passe notamment par le ping-pong. Ça peut sembler anecdotique, mais ce ne l'est pas. Clin d'œil ici, Forrest Gump, célèbre film de 1994.
J'étais si doué que quelques années plus tard, l'armée décide de me mettre dans l'équipe nationale. Nous fûmes les premiers Américains à visiter la Chine depuis un million d'années ou quelque chose comme ça. Et quelqu'un a dit que la paix mondiale était entre nos mains. Et tout ce que j'ai fait, moi, c'était jouer au ping-pong. En rentrant chez moi, j'étais une célébrité nationale.
Alors évidemment, c'est un clin d'œil, hein, mais l'événement comme tel, il est réel. Le 4 avril 71 se tient à Nagoya, au Japon, le championnat mondial de ping-pong. Les Américains y sont, les Chinois également. Il se passe quoi, ce tournoi, pour que, 50 ans plus tard, on parle encore de la diplomatie du ping-pong?
Alors, la première chose à dire, c'est que depuis fin 69, donc Nixon essaye de contacter les Chinois, mais ils n'ont pas de moyens directs. Donc, ils passent par le Pakistan, ils passent par la Pologne, par des ambassadeurs en Pologne. Et à chaque fois, il y a des obstacles. Par exemple, les États-Unis commencent à bombarder le Laos dans l'extension de la guerre du Vietnam ou une attaque contre le Cambodge. Et à chaque fois, les Chinois se referment pendant des mois. Et donc, en gros, la communication ne passe pas. Donc, il y a une impasse. Et puis, arrive ce championnat de ping-pong. C'est la première fois depuis 5 ans que les Chinois y retournent. Il y avait la révolution culturelle, ils n'y étaient pas. Tout d'un coup, ils sont là. Les joueurs ont des instructions de ne pas parler aux joueurs américains. Et puis, il y a ce moment assez étonnant, surprenant, où Glenn Cowan, donc un des joueurs américains qui est hippie avec des longs cheveux, est en retard à un entraînement. Son bus américain est déjà reparti. Et il n'y a plus que le bus des joueurs chinois. Et un joueur chinois lui signale de venir. Il s'installe dans le bus, il y a un silence total pendant presque tout le transport, jusqu'à un moment où un des joueurs, le meilleur joueur de Chine, celui qui est le titulaire des meilleurs titres, Zhuang Zhidong, vient lui parler. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est ce joueur qui prend sur lui-même, contre les instructions, de parler à Glenn Cowan. Et il lui parle un peu et puis il lui donne un cadeau. Il lui donne une écharpe avec les montagnes de Huangshan. C'est quelque chose de stupéfiant. Ils sortent un peu ensemble et le lendemain, Glenn Cowan apporte un cadeau pour Zhuang Zedong et il lui donne un T-shirt avec Let It Be des Beatles. Et ils sont pris main dans la main et il y a toutes les caméras du Japon qui sont là et c'est en premier titre des journaux du Japon. Coup de théâtre, l'imprévu, c'est l'imprévu. Et ça réveille tout le monde.
Oui. Mais une rencontre improbable, effectivement, avec ce joueur. Hein. Il faut le voir, vous l'avez dit, totalement hippie de la côte ouest, qui rencontre le joueur de la Chine communiste. Et là, tout le monde se passionne. En Chine, rapidement, on comprend qu'il se passe quelque chose. Hein. Mao va inviter lui-même les joueurs américains sur le champ. Donc, l'équipe arrive le 10 avril 72. 2 jours plus tard, le 12, le monde entier là, se passionne finalement pour le ping-pong. Approuve ce reportage, Claude Moisy, à notre radio.
Pour la première fois depuis 1949, un groupe d'Américains reçoit un accueil qualifié de très chaleureux par les observateurs de la part des Chinois. Les 15 membres de l'équipe américaine de tennis sur table ont été notamment reçus aujourd'hui pendant plus de 5 heures. De Washington, Claude Moisy nous parle de l'importance que revêt pour les Américains cet accueil chinois à des citoyens des États-Unis.
On a l'impression aujourd'hui que l'Amérique réalise un rêve vieux de plus de 20 ans. L'attention accordée à tout ce qui vient de Pékin, où une équipe américaine de ping-pong a commencé hier une tournée amicale, traduit la profondeur du désir de la majorité des Américains pour reprendre des relations normales avec la Chine. Les journaux étalent ce matin de gros titres ravis à la première page pour proclamer que les Américains ont été accueillis avec le sourire à Pékin. Tout cela serait nettement disproportionné avec l'importance réelle de l'événement s'il ne s'agissait en réalité de bien d'autres choses que d'une tournée amicale d'une équipe sportive. Il s'agit en fait de la première réponse concrète de la Chine populaire aux efforts que le gouvernement Nixon fait depuis 2 ans pour faire tomber le mur de bambou. Ce n'est qu'un petit pas, dit-on à Washington, mais c'est le premier pas qui coûte, et celui-là pourrait être suivi de beaucoup d'autres.
Un petit pas, mais un pas important. Donc, ce sont les joueurs de ping-pong qui auront brisé la glace, là, finalement.
Oui, alors, il faut rajouter quelque chose. C'est-à-dire que lorsqu'il y a cette rencontre impromptue dans le bus, la machinerie chinoise, au début, se referme. Hein. D'une part, le leader du parti qui est avec eux, avec les joueurs, va un peu gronder Zhuang Zedong pour avoir parlé à Glen Cowan contre les instructions. Et ensuite, le ministère des Affaires étrangères chinois décide de ne pas offrir d'invitation et de refermer un peu, de refermer la porte. Oui. Mais c'est Mao Zedong, le soir, à minuit, qui écoutait la lecture des journaux par son infirmière, qui découvre un peu ce qu'on rapporte depuis le Japon. Et puis, il se met debout. Il avait déjà pris ses pilules pour dormir, mais il se rassoit. Il s'est dit, mais bon sang, c'est un coup de génie. Zhuang Zedong est un génie de diplomatie. C'est le moment qui peut faire tout tourner. Et il ordonne à minuit au ministère des Affaires étrangères de renverser la vapeur et d'envoyer l'invitation pour le 10 avril, donc 4 jours après, à l'équipe américaine. Donc il y a quand même Mao derrière, c'est quand même Mao qui a pris la décision principale. Oui, mais finalement, aidé par ces deux joueurs impromptus.
Oui, bien tout à fait.
Alors ensuite...
Et là, il y a une brèche dans ce qu'on appelait à l'époque, on parlait beaucoup du rideau de fer en Europe, hein, on parlait du mur de bambou entre la Chine et les États-Unis. Et là, il y a une brèche, 3 mois plus tard, dans le plus grand secret, là, c'est Kissinger qui se rend en Chine, nom de code d'opération Marco Polo. Qu'est-ce qui prépare là-bas? Qu'est-ce qu'il va faire là-bas?
Alors, bien sûr, ça a été préparé, autorisé par Nixon, etc. Mais là encore, c'est un coup de théâtre incroyable parce qu'en fait, Kissinger ne va pas en Chine, il va au Pakistan. Il a une rencontre officielle au Pakistan et puis il disparaît. On apprend qu'il est très malade au Pakistan et il disparaît pendant 2 jours. Et il y a un avion secret chinois qui vient le prendre au Pakistan avec 2-3 aides, notamment Winston Lord. Il n'a même pas ses habits. Il doit prendre la chemise de Winston Lord. Il n'a même pas sa trousse de toilette. Tout est en secret et il débarque en Chine totalement secrètement. Et là, il négocie une ouverture et la possible visite du président Nixon l'année d'après. Et il discute aussi beaucoup de Taïwan parce que la Chine n'arrête pas de parler de Taïwan. Au-delà des discussions très difficiles sur le contenu, il y a aussi des discussions passionnantes entre Zhou Enlai, le Premier ministre, et Kissinger, où ils rediscutent l'histoire dans un sens. Alors, ils se remettent à se raconter ce qui s'est passé pendant la guerre de Corée ou ce qui s'est passé pendant le bombardement des îlots de Taïwan. Et Zhou Enlai fait des confessions. Il dit, vous avez remarqué, en fait, on bombardait que tous les 2 jours, les jours impairs. Et les jours pairs, on ne faisait rien. Et on laissait les Taïwanais nous bombarder. En fait, on ne voulait rien faire. On n'avait pas l'intention d'attaquer. C'était juste pour montrer qu'on n'était pas contents. Donc, oui. Il se raconte des histoires. C'est assez passionnant.
Ce qui permet sans doute, un rapprochement personnel, puis un rapprochement entre les deux pays. Mais il y a la question de Taïwan. Vous avez évoqué Taïwan en octobre 71, parce que là, on prépare le voyage pour Nixon, mais il y aura entre-temps des événements qui vont bousculer le calendrier, là.
Oui, alors Taïwan, c'est le plus gros problème et on a toujours ce problème aujourd'hui. Parce que c'est d'une part l'île où Chiang Kai-shek s'est réfugié avec son ancien gouvernement. Donc, vu de la Chine, c'est toujours la guerre civile qui continue. Et puis ensuite, Taïwan a le siège officiel de la Chine aux Nations Unies et le gouvernement de Taïwan est reconnu par tous les alliés américains, les États-Unis, comme le gouvernement officiel de la Chine. Donc, il y a une bataille entre deux gouvernements, en fait. Et la Chine veut récupérer Taïwan totalement et prendre possession de l'île. Et les États-Unis ne peuvent pas. Il y a un lobby, bien sûr, pro-Taïwan aux États-Unis, etc., etc. Puis, ils ont une alliance, ils ont un traité de défense, ils ont des troupes à Taïwan, enfin, etc. Et ce n'est pas résolu lors de la première visite de Kissinger. La résolution finale qui aura lieu ce sera la visite suivante de Kissinger en octobre, c'est de dire... ils ont une phrase sibylline sur laquelle ils se mettent d'accord. Les États-Unis reconnaissent que les Chinois des deux côtés du détroit souhaitent une Chine unifiée et les États-Unis ne s'y opposent pas. Comme ça, les États-Unis ne prennent pas position sur la position taïwanaise ou chinoise. Et finalement, Zhou Enlai accepte ça.
Oui, tout à fait. Une façon de ménager la chèvre et le chou pour ne pas faire capoter, évidemment, ce voyage. Donc, ce fameux voyage historique. Hein. En juillet 71, Nixon va déjà l'annoncer publiquement, son intention de se rendre en Chine au public américain. 7 mois plus tard, février 1972, ça va faire d'ailleurs 50 ans très bientôt, Nixon décolle des États-Unis, il se pose à Pékin, où très rapidement, il va rencontrer Mao lui-même. Un extrait ici, encore une fois, dans les archives de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel en France.
Froideur encore, absence de foule lorsque la voiture du président Nixon traverse à toute vitesse l'immense place de Tiananmen, de la porte de la paix céleste. Allait-on vers une paix entre Américains et Chinois? Oui, car immédiatement, en arrivant à Pékin, Nixon, on ne le savait pas tout de suite, on l'a su plus tard, allait chez Mao. Monsieur le Président Garfort.
Oui, c'est tout de même un détail qu'il ait vu le président Mao Tse-Tung le premier jour ou le second. Mais les questions de forme sont très importantes et les Chinois sont d'une extrême courtoisie, d'une extrême prévenance.
D'ailleurs, la caution qu'a donnée le président Mao lui-même au voyage en Chine du président Nixon, cette caution a été confirmée le lendemain ou le surlendemain, après une entrevue avec Zhou Enlai, lorsque Mme Chang Qin, c'est-à-dire la femme du président Mao, s'est montrée en public aux côtés du président Nixon. Et ça, c'est un fait, vous le savez, extrêmement rare.
Donc, le voyage comme tel, février 1972, dans les archives de l'INA. On sait, on l'a dit plus tôt, Nixon, hein, il est profondément anticommuniste. Mao est profondément anticapitaliste, anti-américain. Comment se déroule l'entretien en privé?
C'est en fait très amusant parce que ce sont deux géants qui sont en fait tous les deux réalistes et machiavéliens. Et ils professent des idéologies, etc. Mais finalement, ces deux personnages se comprennent très bien. Mmh. Et ils se disent, ils se partagent un peu des confidences. Mao dit, on va devoir quand même dire des tas de choses terribles sur vous parce qu'il faut qu'on maintienne notre crédibilité par rapport à la population. Mais ensuite, le lendemain, on peut quand même en fait se comprendre. Et on a un ennemi commun, c'est l'Union soviétique. Parce qu'à ce moment-là, l'Union soviétique est en semi-guerre avec la Chine. Donc, on a beaucoup de choses à faire ensemble, mais on va quand même vous critiquer. Donc, ne soyez pas surpris. Donc, il s'explique beaucoup de choses. C'était un moment assez... Et les deux, en fait, Nixon a un sourire énorme sur les photos après sa rencontre avec Mao. Parce qu'il est d'une fierté. C'est, j'ai réussi le coup historique. Donc, en fait... Alors, on voit que c'est vraiment le personnage qui comprend qu'il est en train de faire bouger les forces tectoniques de la géopolitique.
Oui, tout à fait. Parce que l'avantage pour la Chine, vous l'avez dit, l'ennemi commun, c'est l'URSS là, à ce moment-là. Donc, de part et d'autre, on y trouve un avantage.
Tout à fait. Et pour Nixon, il y avait deux priorités. La première, c'est fini la guerre du Vietnam. Il ne faut pas oublier que même le 26 décembre, il avait lancé un énorme bombardement sur Vietnam, Cambodge, Laos, qui avait failli faire capoter la visite, parce que les Chinois sont alliés du Cambodge d'abord, mais aussi un peu du Vietnam. Donc, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils veulent desserrer la tension de la guerre froide. Et on le voit ensuite par le sommet qui aura lieu le 22 mai entre Nixon et Brejnev. Nixon va à Moscou. Et finalement, la porte de Moscou a été ouverte via Pékin.
Mmh. Donc, avantage pour lui. Bon, évidemment, ça dure quoi? Une semaine à peu près, ce voyage, hein, voyage protocolaire. Il y a des rencontres, il y a des discussions sérieuses, mais il y a aussi beaucoup de visites pour les caméras. Notamment Nixon qui va visiter la Grande Muraille de Chine. Donc, l'occasion, elle est très, très belle pour parler de rapprochement devant ce mur, au-delà des murs. On va l'écouter, Nixon s'adressant aux journalistes sur la Grande Muraille de Chine, février 72.
I think one of the results of our trip, we hope, may be that the walls that are erected.
Nous espérons que ce voyage aura permis, entre autres, de faire tomber des murs entre les peuples, qu'ils soient physiques comme celui-ci ou idéologiques. Nous souhaitons que les peuples du monde puissent communiquer et se connaître et qu'ils sauront, malgré leurs origines ou leurs philosophies différentes, unir leurs efforts pour le progrès et la paix dans les années à venir.
Particular endeavors that will mean peaceful progress in the years ahead.
Nixon dira plus tard de ce voyage, hein, qu'il aura changé le monde. Comment il a changé le monde?
Mais c'est vrai, et ça a changé la géopolitique, au moins pour un cycle de 60 ans. On est en train, en ce moment, de voir un peu la fin de ce cycle et un nouveau cycle. Mais ce que ça a changé, c'est que ça a ouvert ce qu'on voyait le front communiste entre la Chine et l'Union soviétique. Ça a ouvert une relation pragmatique entre les États-Unis et la Chine. Ça a également ouvert des relations entre les États-Unis et l'Union soviétique qui ont mené à des tas d'accords de désarmement nucléaire et à la stabilisation de la guerre froide. Et aussi, ça a mené, bien sûr, à la fin de la guerre du Vietnam. Et ça a mené à l'ouverture de la Chine. Parce qu'en fait, c'est en 71-72 que commence l'internationalisation de la Chine, la période des réformes, même si ça va être interrompu entre 73 et 78. Mais tout est lancé finalement par cette ouverture. S'il n'y avait pas eu cette ouverture des États-Unis envers la Chine, les réformes de Deng Xiaoping n'auraient pas pu avoir lieu. Mmh. Donc tout est lié à ça.
Oui, dont les relations économiques extrêmement importantes aujourd'hui, on le voit bien. Puis on pensait que l'économie allait permettre à la Chine ou au régime chinois de changer. Quand vous dites on est dans la fin d'un cycle, on se rend compte que oui, l'économie, on s'est ouvert, mais le régime, lui, n'a pas tellement changé.
Alors, il y a des aspects qui ont changé et d'autres qui n'ont pas changé. Ce qui n'a pas changé, c'est que ça reste un système autoritaire, léniniste, autour d'un parti communiste qui reste secret, avec une élite qui se combat, avec des combats factionnaires et autres. C'est ça reste la même chose, finalement. Beaucoup de continuité. Et on est dans un cycle de répression en ce moment, ou de consolidation idéologique, comme on en a vu dans le passé dans le parti communiste. Ce qui a changé, par contre, c'est que des centaines de millions de Chinois ont voyagé à l'étranger, ont même étudié à l'étranger, etc. La société chinoise est beaucoup plus modernisée. Alors, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est si cette société va tolérer le degré de contrôle et autres qui sont en train d'avoir lieu. Tout n'est pas dit encore. Je ne pense pas que tout est perdu pour cette longue période d'ouverture.
Oui. En tout cas, un voyage, oui, historique, un coup de poker et puis une diplomatie du ping-pong qui a de quoi faire sourire aujourd'hui. Mais c'était effectivement un coup de génie de la part de Nixon, de la part de Mao et de la part certainement des joueurs. On ne sait pas si c'était prévu tout ça, on pense pas, mais il reste que, vous l'avez bien raconté, Mao a réagi à l'époque. Mon invité, je le rappelle, Yves Thiberghien, il est professeur titulaire au département de sciences politiques de l'Université de la Colombie-Britannique, UBC, c'est à Vancouver, grand spécialiste de l'Asie, directeur émérite de l'Institut de recherche sur l'Asie. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
Merci Maxime, c'est un plaisir.
Merci, à une prochaine. Ici Maxime Coutier, merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous rattraper en balado. Nous sommes disponibles en écoute sur Radio-Canada Audio. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. À une prochaine. Au revoir. Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.